Bon matin à tous, mesdames et messieurs, François Berthiaume au micro pour une troisième fois pour cette programmation estivale de votre Cinébrunch. Comme à l'habitude, je suis accompagné de ma bonne acolyte et alliée, Vicky Langlois.
Hey, salut!
Bon matin, ça
bon
va bien?
Bon matin, ah, pas pire, toi?
Oui, comme à l'habitude, toujours prêt à déblatérer ce qui s'est dit niveau cinéma cette semaine.
Qui s'en est dit?
Ben, pour une semaine d'été quand même, hein, parce qu'on s'avouera que l'actualité, pendant la période estivale, elle prend une petite pause quand
L'actualité,
même, hein.
Il s'en est pas dit, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est autre chose.
Ben oui, on va avoir l'occasion de vous en parler au cours de cette heure qu'on va passer en votre douce compagnie, alors qu'on va déblatérer notamment sur les différents choix de casting qui font beaucoup de remous, notamment sur les internets et réseaux sociaux. Bien entendu, on vous en parle en lien aussi avec l'annonce qui a été faite du casting du remake de La Petite Sirène.
Yes, le casting de Ariel.
Entre autres, bien entendu. On va aussi, pour l'occasion, la semaine dernière, on vous avait introduit à notre nouveau segment Top 3. Et cette semaine, on revient à la charge avec chacun notre top 3 personnel des films d'été alternatifs.
Donc, avis
à tous, si vous êtes un peu fatigué de toujours écouter jazz ou Retour vers le futur, nous voilà arrivés tels des messies avec des alternatives
avec
peut-être intéressantes.
Oui.
Alors, voilà pour ce qui sera de notre deuxième demi-heure, mais avant tout, petite critique du film Midsommar de Harry Astor que nous avons tous les deux eu la chance de voir. Mais d'abord et avant tout,
des
actualités.
Dis-moi,
qu'est-ce que t'as retenu cette semaine, Vicky?
En fait, moi, je vais vous parler du spin-off de The Big Lebowski. The Big Lebowski, qui est un film de 98, autour de ça, 96-98, qui est sur l'histoire d'un gars ordinaire qui se fait prendre dans une aventure un peu abracadabra.
Oui, pour une histoire d'identité.
Ouais, c'est ça. Ah oui, vol d'identité, on est encore dans les nouvelles avec Desjardins. notre ami The Big Lebowski, qu'on appelle The Dude, joue au bowling.
Mm-hmm.
Et un des compétiteurs de bowling dans notre équipe, c'est Jesus Quintana.
Oui, ben oui, scène qui avait marqué beaucoup de monde.
Exactement.
À l'époque.
Et il semblerait que ça l'ait énormément marqué John Turturro, l'acteur qui joue Jesus Quintana, au point où il avait envie de faire un spin-off avec ce personnage. Ça peut sembler humoristique à la base. Ce personnage, c'est vrai qu'il est marquant, il est drôle, mais lui, il insiste pour faire un spin-off. Le spin-off a eu beaucoup de noms et beaucoup d'identités propres. Il a été long à trouver un studio qui voulait embarquer à le produire parce que le problème, c'est qu'on voit pas le rapport avec l'univers de Big Lebowski.
Mm-hmm.
Donc, ça va être un film probablement tabletté ou peut-être un film qui va sortir dans quelques salles, mais qui ne viendra peut-être même pas un film culte. Peut-être une vidéo directe sur demande même qui va être disponible.
Ah, oui, tu penses?
Ouais, parce que le film qui s'appelle The Jesus Roll, prévu pour 2020, a déjà des memes sur qui circulent sur Reddit. On voit vraiment Jesus rouler les balles de bowling. The Jesus Roll. Mais quand on lit le résumé, l'histoire de The Jesus Roll ne fit pas avec Jesus Quintana, le personnage dans The Big Lebowski, dans le sens où ce film-là pourrait être le film de n'importe qui. Ça n'aurait pas besoin d'être Jesus Quintana, le personnage principal. Alors moi, je pense que ce film peut-être ne fera pas un flop, mais ce film va rater sa cible et va sûrement déplaire à plusieurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il va être tabletté rapidement. C'est que je pense qu'il n'y aura pas une bonne vibe et les gens vont l'oublier, ils ne vont pas le conseiller. parce qu'il ne s'associe pas à Big Lebowski pour les bonnes raisons. On n'a pas gardé du résumé du film et de la manière qu'on le présente.
Oui, parce qu'il reste qu'on n'a pas encore de bande-annonce, quoi que ce soit. Non, exactement.
Mais c'est ce que les producteurs aussi disent et les maisons de production, pourquoi qu'ils le prennent pas, c'est on comprend pas pourquoi tu tiens à attacher ça à The Big Lebowski. Mm-hmm. Je pense qu'ils sentent que les fans seraient déçus.
Penses-tu qu'il y a un peu une perte de momentum aussi? Je veux dire, Big Lebowski est sorti en quoi? Milieu des années 90 environ?
Non, ben, comme je t'ai dit, 96, probablement plus 98.
Penses-tu que justement ça aurait été le genre de projet qui aurait été intéressant un peu plus au début des années 2000 peut-être?
Probablement. Faudrait voir aussi si est-ce qu'on faisait gros ce genre de truc-là, des spin-offs de ce style-là.
Non, en effet. Comparé à aujourd'hui, je pense qu'on en faisait beaucoup moins.
Exactement. Ouais. Et l'autre problème aussi, c'est que les frères Coen n'embarquent pas. Tu sais, les frères Coen ne trouvent pas qu'il y a d'intérêt pour eux dans ce film-là. Donc, je pense que ça aussi, c'est un clin d'œil à se dire « Dude, hein? Dude, peut-être que ton film manque d'intérêt. » Peut-être. C'est comme si tu étais tellement attaché à ton idée que tu passais à côté de quelque chose qui aurait été meilleur. Ben, moi, c'est ça qui me fait peur avec
le
Jesus Show.
Ça fait mal, surtout justement quand on a les créateurs originaux du matériel de base qui pas désapprouvent, mais qui approuvent pas non plus, de ce que je comprends.
Mais non, c'est ça. Il n'y a pas de désapprouve, mais plus un « pourquoi tu insistes? »
Ouais. Ouais. Bon, j'imagine qu'on va attendre de voir peut-être une première affiche extrait bande-annonce.
Bien sûr.
Pour le restant, on reste dubitatif de ce que je comprends.
Oui, exactement.
Parfait, parfait. Ben écoute, je vais rattraper la balle au bon avec une autre annonce de film pour le moins curieuse, elle aussi. On est rendu à 8 films dans la saga Décadence Ça.
Oh, oui.
Oui. Et
je m'en vas,
exactement. On a appris, bon, il y a 2 ans, je pense, une tentative de redémarrage de la franchise avec le film Jigsaw, qui essayait de revenir un peu plus aux fondamentaux, au côté un peu plus enquête policière des premiers films. Bref. Maintenant, on a appris cette semaine qu'il y a un 9e film qui se prépare, qui serait lui aussi complètement détaché de tout ce qui s'est fait dans les autres films précédents. Et là où ça devient particulier, c'est que cette idée de film, c'est pas les studios Lionsgate qui l'ont eu. En fait, ils ont été approchés par l'humoriste Chris Rock. Qu'on connaît ici, mon Dieu, je sais pas exactement quel rôle qu'il a fait bien marquant au cinéma.
Avec Jackie Chan, c'est pas lui justement?
Non, c'est Chris Tucker.
C'est Chris Tucker,
exactement. Bon, j'ai juste le zèbre dans Madagascar dans ma tête.
Ah,
alors voilà,
ben, c'est
le zèbre dans Madagascar.
Ouais.
Mais grand humoriste très populaire aux États-Unis, il est arrivé justement avec une idée pour un nouveau Décadence. Et il semble que le studio a embarqué parce que le tournage est déjà en chantier. Alors, c'est quoi cette idée-là qui a motivé Chris Rock à proposer un 9e film d'horreur à une franchise qui s'est déjà essoufflée?
Énorme!
J'avoue que ça pique ma curiosité, honnêtement, de savoir qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça. Surtout qu'on a appris aussi cette semaine qu'il allait avoir nul autre que Samuel L. Jackson dans le rôle de son père, parce que Chris Rock aussi va jouer dans le film. Donc, des gros noms quand même pour un 9e opus d'une série horrifique comme celle-là.
Mais oui, des gros noms, mais encore une fois, on perd l'idée du projet. Tu sais, Décadence, là, c'est un homme mourant qui piège des gens pour leur faire asile la chance qu'ils ont d'être encore en vie.
Ben, tu vois, à cet effet-là, je pense que c'est Tobin Bell, justement l'interprète de Jigsaw, ce tueur-là. Il n'a pas encore été confirmé, lui, au tournage. Donc,
mais c'est ça. Puis après, vu qu'on a voulu continuer la série, ben, on a dit, il va avoir fait des adeptes. Il va avoir fait des petits, un culte autour de sa personne. Ouais. Il va avoir fait des gens qui vont le suivre. Mais en même temps, c'est pas tant possible dans le sens où... T'sais, limitons un peu la logique de tout ça, là.
Ouais, ben déjà qu'il est assez
amoindri. Fait que là, que tu repars rendu au 8e film, moi j'ai arrêté à un moment donné, mais là, t'es rendu au 8e film avec d'autres adeptes, d'autres personnes qui suivent le culte, d'autres personnes qui suivent tes recommandations, tes commandements. C'est comme, non! À un moment donné, la vérité va sortir, tu sais, à un moment donné...
Oui, non, je pense qu'il y a vraiment... Mais j'ai l'impression, en fait, je trouve que cette idée de projet-là ressemble beaucoup au concept qu'il y avait autour du reboot d'Halloween qu'on a eu l'année dernière, où on avait Danny McBride, un humoriste aussi à la base, qui a signé le scénario pour ramener justement la franchise Halloween. Est-ce que il y a cette... je sais pas si on veut adapter, en fait, l'idée, le concept des décadences à quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore connu. T'sais, eux, ils vont dire qu'ils veulent le moderniser, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont une autre idée de concept, ils veulent aller totalement ailleurs? C'est l'impression que j'ai. Mais encore là, comme je disais, on a eu le Jigsaw il y a 2 ans qui lui promettait déjà d'arriver avec quelque chose de nouveau, puis finalement quelque chose de relativement semblable. Ça reste à voir. Mais ce qui est drôle, c'est que justement le tournage lui a commencé, comme je disais, et on a eu une première photo du clap de début de tournage sur lequel il y a le titre de travail du film.
Oui, 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 allez-y.
Et le titre de travail, c'est le donneur d'organes.
Ok.
Fait qu'on reste un peu dans la même thématique quelque part, mais bon, voilà. Un 9e décadence qui devrait arriver très bientôt. Donc, avec ça et The Jesus Roll, on verra bien où est-ce qu'on s'en va avec tout ça.
2020 sera particulièrement intéressant au niveau cinéma, je crois.
Particulièrement. Voilà de retour avec votre Cinébrunch et notre segment critique de la semaine, alors que Vicky et moi-même avons eu la chance ou la malchance de voir le même film cette semaine.
Yes!
C'est-à-dire Midsommar, deuxième long-métrage de Harry Astor, le même cinéaste indépendant américain qui nous avait offert l'année dernière Héréditaire.
Yes!
Qu'est-ce que t'en avais pensé au préalable?
Moi, je te dirais, Héréditaire, on va avec lui, ok, parfait. Mettons, parce que pour parler de Midsommar, ça va me prendre la bande-annonce pour commencer.
Ah, c'est bon, mais c'est ça. Donne-moi
mais
tes impressions vite, vite.
On peut parler d'Héréditaire. Je te dirais que Héréditaire, j'avais peur d'embarquer dans le mouvement. Tu sais, il y a des films comme ça qu'on aime, mais on a l'impression qu'on les aime parce que tout le monde l'aime.
Parce qu'il y a un buzz. Pas.
C'est ça.
Ouais.
Quand j'étais allé voir Héréditaire à sa sortie au cinéma par pur hasard, et j'étais pas dans le buzz. Je savais pas qu'il y avait un buzz autour de ce film-là. Mm-hmm. Puis j'étais arrivée, la salle était pleine à craquer. J'ai comme, mais qu'est-ce qui se passe pour un film d'horreur? Okay. Puis c'est par après que j'ai su, non, tu comprends pas, tout le monde en parle et blablabla. Bla, 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 bla. Ah, OK. Mais moi, j'avais vraiment adoré Héréditaire, ne sachant pas du tout quoi m'attendre. J'ai vu beaucoup de références aux films de sorcières, à Rosemary's Baby, encore une fois, que je vois à plein des niveaux dans notre cinéma, dans le cinéma américain. Ce film-là a énormément marqué. Et j'ai adoré l'ambiance de ce film-là, j'ai adoré les directions qu'il prend. Je pense aussi que Harry Astor connaît sa caméra, connaît ses mouvements de caméra, il sait où il s'en va. Il sait exploiter le physique et le plastique de ses personnages énormément. Il sait exploiter leur background aussi, leur effet, l'image de la caméra fait sur eux. Les gens disaient beaucoup que Toni Collette méritait un Oscar.
Oui.
Que mais je pense qu'elle a été très bien dirigée aussi, puis qu'elle a été choisie parce qu'elle était capable, dans le sens où c'est pas simplement un bon casting. Une bonne actrice, c'est aussi un bon casting. Plutôt, c'est aussi le fait que ce gars-là sait quoi faire avec ses personnages, sait quoi faire avec ses images. Toutes les miniatures dans le film, c'est inoubliable. La finale, oui, ça crée un malaise. Oui, dans le cinéma, on rit de malaise, mais on rit de malaise. On ne rit pas d'humour. On rit parce qu'on ne sait pas où se placer. On rit parce qu'on assiste à quelque chose qui nous met pas bien.
Mm-hmm.
Donc moi, j'ai vraiment apprécié Héréditaire l'an dernier et je compte le réécouter très prochainement. Et toi, cher François?
Ah, ben je vais te suivre là-dessus. Moi, en fait, Héréditaire, c'est tout simplement le meilleur film que j'ai vu en 2018, ou du moins le film que j'ai préféré. J'étais au courant du buzz. Ce qui m'inquiétait déjà un peu à la base, n'importe quel film d'horreur qu'on va dire que c'est le nouveau Exorciste, je vais rester sur mes gardes quand même, parce que c'est toujours un peu gros.
Oui, c'est ça. Puis le buzz était énorme dans le sens où la salle était pleine et c'est sûr qu'il y a eu du monde déçu.
Et c'est ce que j'ai adoré, moi, d'avoir vu ce film-là en salle aussi, c'est que souvent, j'ai tendance à dire que le pire public en salle, c'est le public des films d'horreur, parce qu'on a souvent des jeunes adolescents qui essayent de se faire un peu des frayeurs, mais qui n'arrêtent pas de parler, d'autres qui savent pas trop ce qu'ils sont venus voir, ou ben non, qui vont trouver ça ridicule parce que eux, ça leur fait pas peur. Le problème avec la peur, c'est que c'est extrêmement subjectif. Ouais. Ce qui fait que d'un film à l'autre, c'est pas les mêmes éléments qui vont nous faire peur. Et là où j'ai trouvé Héréditaire très ingénieux, c'est dans sa manière justement de déjouer les attentes à différents niveaux. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, justement, il y a une volonté de vouloir installer un malaise chez le spectateur puis de le déstabiliser, mais à un point que je trouvais absolument fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont tellement crus et grotesques qu'on ne sait pas trop comment réagir. Oui. Donc, il va y avoir des rires nerveux, il va y avoir des cris de peur en même temps pour la même chose. C'est assez particulier. Il y avait ce petit toc-là que l'un des personnages avait dans le film. Vous avez genre un petit claquement de bouche. Puis je me souviendrai toujours, vers la fin du film, justement, c'est des claquements qui arrivent de manière spontanée, sans qu'on s'y attende. Et il y avait des gens qui criaient dans la salle, mais pour un claquement de bouche, pour un simple... Ouais. Tout simplement. Mais il était tellement mis sur les nerfs, il était tellement à vif que n'importe quel petit déclenchement était un jumpscare pour eux. Donc moi, j'avais trouvé très ingénieux Héréditaire et j'avais bien hâte aussi de voir Midsommar. Alors, on s'en reparle de l'autre côté de l'extrait.
J'ai invité Dani à venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient de traverser.
Christian dit que vous avez planifié une semaine un peu spéciale.
C'est un genre de festival folklorique. Avec des cérémonies et des costumes.
Ah, ça a l'air cool.
C'est incroyable.
Bienvenue et joyeux Midsommar. Skål!
Il est quelle heure?
21h.
Ça se peut pas, le ciel est encore bleu.
C'est à ça que ressemble le soir ici.
Alors, voilà. Le synopsis, rapidement... Un couple ébranlé par différentes tragédies personnelles va partir en voyage avec quelques amis en Suède, dans une petite communauté folklorique à laquelle on célèbre le solstice d'été durant plusieurs jours. Des célébrations qui rapidement vont prendre une tournure très étrange pour le couple Dani et Christian. Qui vont être confrontés à de drôles d'événements, mais aussi à leurs propres démons. Alors, rapidement, c'est en gros à quoi ressemble Midsommar. Maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé, Vicky?
Je commencerai par deux choses. La première des choses, la salle était beaucoup moins pleine. Vraiment, là, on parle d'une petite salle à la Maison du cinéma. On était à peine une dizaine et mes amis, on était 6.
Moi aussi,
puis finalement, un autre de mes amis remplissait l'autre rangée de 4. Fait que c'était tout du monde que je connaissais. Donc, on est allé vraiment chercher les fans d'horreur pour celui-là. Puis, pour moi, il y a eu autant de buzz qu'Héréditaire, mais je pense que Héréditaire en a ébranlé plus d'un. Les gens s'attendent à l'horreur, ils s'attendent souvent à du gore ou ils savent pas à quoi s'attendre et ça les bouscule. Donc, salle plus petite et je pense que c'était plus convenu dans ce sens-là parce que Midsommar va encore plus loin dans le malaise, dans les plans de caméra étranges. Beaucoup de drones aussi, hein? Le drone énormément exploité,
oui,
les plans de drones.
On est sur des étendues dehors,
Dans
les clairières.
Mais même dans les appartements, tu sais, à travers, pour aller à la salle de bain, le drone fait un effet miroir puis finalement, il est dans l'avion. Je pense que ce film allait chercher un public plus précis qui savait qu'est-ce qu'il voulait voir et ça, j'ai adoré. Par contre, ce film-ci, j'ai dû voir la bande-annonce à cause que je suis allée voir The Dead Don't Die la semaine précédente et la bande-annonce était là. J'ai essayé de l'éviter le plus possible, mais en cinéma, c'est plus dur qu'à la maison.
Elle est assez, je trouve... trompeuse par moment.
Elle est trompeuse, mais trop démonstrative, à mon avis. Mais moi, je les trouve toujours trop démonstratives. Et peut-être trompeuse, mais elle crée des déceptions. Par exemple, quand il dit, ben voyons, il est 9h, il ne peut pas faire soleil de même, ce n'est pas exploité dans le film. On pense que c'est des buzz. Ce film-là est un film de buzz. Ce film-là regroupe les expériences qu'on peut vivre autant sur la drogue que sur un effet d'adrénaline. C'est un film de buzz. Personnellement, j'ai adoré Midsommar parce que c'est allé chercher exactement ce que je voulais. Ce film-là était exactement ce que je voulais. Mm-hmm. Je l'ai adoré. Par contre, la bande-annonce, pour moi, elle exploite des choses qu'on ne voit pas dans le film, puis ça, c'est un peu dommage. Okay. Toi, François, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je suis peut-être un peu moins enthousiaste par rapport au film, mais il reste que s'il y a une chose qui est évidente à mes yeux maintenant avec ce Midsommar-là, c'est que Ari Aster, pour un deuxième film, même avec Héréditaire, un premier film, on a affaire vraiment à un metteur en scène qui est très intéressant puis qui a vraiment beaucoup de choses à apporter.
Oui.
Moi, c'est ce qui
là.
M'impressionne de ces deux films, c'est la manière presque chirurgicale, la précision avec laquelle il met en scène son propos et ses idées. C'est le genre de film qu'on pourrait réécouter à plusieurs reprises pour déceler les indices, les éléments qui sont placés pour évoquer ce qui va arriver plus tard dans le film.
Oui, tout
dans,
à fait.
Dans les 15 premières minutes du film, je pense que le décor est bourré de symboliques qui vont revenir plus tard.
Oui, j'ai essayé dans...
Oui, il y en a plusieurs.
Oui, hein, énormément.
On en a vu notamment, peut-être une des plus évidentes, le tableau au-dessus de son lit.
Ouais.
Avec qui évoque un ours, pour ceux qui ont vu le film. Peut-être que là où je trouve que la bande-annonce était peut-être un peu trompeuse, ou peut-être que c'est l'effet héréditaire aussi, le film n'est pas tellement un film d'horreur, selon moi, plus qu'un film de mystère.
Mais je te coupe là-dedans parce que The Wicker Man est considéré comme un film d'horreur, et c'est
oui,
un des films qui m'a le
très
plus...
inspiré. Ouais.
Mais moi, c'est un des films qui m'a fait le plus chier dans ma vie. Là. Ça chante tout le temps dans ce film-là. Ça gosse, ça arrête pas. Je suis pas capable. C'est un film hippie des années 70 et moi, pour moi, Midsommar, c'est une meilleure transposition de ce genre de récit-là. C'est
de
The Wicker Man...
Genre de secte.
Ouais, c'est The Wicker Man mieux contrôlé. C'est un film sur les sectes, c'est un film sur les cultes, mais c'est contrôlé. On sait l'effet de gang. C'est un effet de gang constant.
Oui. Mais tu vois, là-dessus, justement, je trouve que plus qu'un film de secte, celui-là est beaucoup plus un film de rupture. Mais qui va utiliser ces éléments-là. Parce qu'au final, moi, c'est là aussi justement que je trouve que ça, la bande-annonce évoquait moins ce qui était vraiment le propos du film. C'est qu'au final, c'est vraiment c'est au cœur du récit. Quand tu arrives à la fin du film, tu comprends que finalement, c'était la rupture entre ces deux personnages-là qui sont un couple qui ne devrait jamais exister.
Exactement.
Deux personnes qui n'auraient jamais dû être en
exactement.
Couple.
Exactement.
Et vraiment, on va déconstruire cette idée-là du couple avec toute la mythologie qui entoure les sectes et notamment le folklore suédois. Puis c'est ça que je trouve assez impressionnant en travail d'Ari Aster. C'est aussi tout le travail de recherche.
Oui.
Parce que j'ai lu par la suite que tout ce qu'on voit dans le film qui évoque des traditions ou des folklores suédois, notamment une tarte à la viande et des poils pubiens, c'est vraiment des traditions et coutumes qui font partie du folklore suédois. Donc, on est allé vraiment là, exploiter des éléments préexistant pour un film qui finalement c'est ça peut-être qui est très psychédélique, qui est un peu paranoïaque
énormément,
par moment
énormément.
Des scènes qui sont très bien traduites justement toutes ces scènes-là d'intoxication avec différentes drogues et autres boissons qui marchent très bien. Mais je peux pas dire que le film a laissé autant un impact sur moi que Héréditaire. Et là-dessus, je trouve en fait que c'est un peu le couteau à double tranchant de la mise en scène d'Ari Aster. De la même manière, un peu, je veux pas le comparer à un Stanley Kubrick, mais les deux ont une démarche très intellectuelle pour mettre en scène leurs propos. Et autant j'applaudis le génie de ces deux hommes-là, autant je suis un peu gêné parfois par la rigidité que ça amène.
Tout à fait.
Je trouve qu'il manque peut-être encore un peu de souplesse, de naturel pour que vraiment on soit vraiment investi dans les personnages plus que avoir l'impression de les regarder comme si c'était des rats de laboratoire. Parce que c'est un peu l'impression que j'ai au
final. Oui, tout à fait. Non, là-dessus, je suis vraiment d'accord. Cette espèce de distance est toujours créée. Puis je pense, c'est une question, mais peut-être parce que Héréditaire est allé chercher dans l'infiniment petit vu que c'était des maquettes.
Oui.
Alors que dans Midsommar, on est dans l'infiniment grand. On est dans les plaines. On a l'impression que lieu de culte est petit, mais que tout a l'air grand.
Oui.
Tu sais...
toutes les bâtisses sont très distancées, justement,
exactement,
pour marquer l'espace.
Alors que si on fait une vue en plongée, c'est petit. L'espace est petit alors qu'on est dans l'infiniment grand. Moi, j'ai aimé cette espèce de vide. Mm-hmm. Tu sais, on a l'impression que c'est super grand, mais que tu peux pas avoir de solitude. T'as pas de place où aller, t'as pas de place où aller faire pipi, t'as pas de place pour toi seul dans cet univers immense et grand. Et oui, c'est un film sur la rupture, mais c'est un film sur le fait d'être seul avec soi-même. Puis est-ce qu'être seul avec soi-même, t'es capable à cette place-là, alors que c'est infiniment grand, alors qu'il y a c'est vaste, on peut aller partout. Mm. Mais à chaque fois qu'elle essaie de s'isoler, il y a quelqu'un proche qui coupe cette isolation. Fait que oui, c'est un film sur une rupture, mais c'est un film aussi sur se retrouver avec soi-même. Tu sais, elle a perdu sa famille au début et elle doit se créer une nouvelle famille. Fait que c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans une famille? C'est quoi notre besoin pour aller de l'avant au niveau des relations humaines? Fait que moi, je pense aussi que c'est un film sur les relations. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont ensemble? Tu sais, pourquoi ils sont unis de cette façon? Là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec toutes les gagnantes de la Reine des Fleurs? Elles sont pas toutes là.
Oui, non, c'est vrai. Puis là-dessus aussi, je pense que pendant qu'on parle justement des personnages, les interprétations, eux, sont au point. Là.
Ah moi, oui, c'est trouve, excellent. Là,
les deux rôles principaux, Jack Rayner, Florence Pugh, les deux livrent des performances très intenses avec des scènes très difficiles à tourner. Hein, je pense notamment à Jack Rayner, une scène vers la fin qui est assez intense. Et bravo, chapeau, pour avoir relevé le défi. Une autre chose, peut-être, peut-être que ça t'a sûrement surpris aussi en quelque part, mais il y a beaucoup d'incrustations d'humour, de moments volontairement comiques, parce qu'on sait qu'avec Héréditaire, on jouait sur la ligne mince du malaise et du grotesque qui fait en sorte que des fois, certaines choses peuvent être drôles, mais on ne sait pas si c'est intentionnel. Là, cette fois-ci, on est allé avec des scènes qui sont complètement assumées, humoristiques, très drôles.
Parce qu'on se positionne à l'extérieur.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais on les trouve drôles, ces moments-là, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on ferait partie de cette communauté-là. C'est pas héréditaire, ça peut être tes voisins. Eux, c'est impossible. Ils sont dans un autre pays, dans une autre plaine, ils sont isolés.
Oui,
fait qu'on se positionne énormément en spectateur. Fait que c'est sûr que c'est rigolo quand tu es le spectateur de ces événements-là.
Mais c'est mis en scène aussi pour être drôle. Il y a des moments où, par exemple, la musique. Par moments, on va croire qu'elle est extra-diégétique, donc à l'extérieur du film.
Oui, puis elle arrive.
Et là, tout d'un coup, pop, on a tout d'un coup quelqu'un avec un violon qui passe, puis finalement, non, la musique, elle est intra-diégétique, elle est dans le film. On a ces petits mécanismes-là humoristiques. Je pense à un autre moment aussi, la première fois où les personnages vont consommer des hallucinogènes. Il y en a un qui devient un peu parano.
Oui,
et,
ça, c'est drôle.
C'est très drôle, justement, puis on sent vraiment que c'est assumé. Pour être drôle, et je pense que ça sert beaucoup à ce que d'autres scènes deviennent déstabilisantes.
Oui, encore plus poignantes. Puis c'est sûr qu'il y a un énorme contrôle sur l'effet psychédélique puis l'effet des drogues, autant au niveau des personnages puis leurs réactions qu'au niveau de l'image, quand l'image devient un peu distordue ou qu'elle floue, elle devient un peu bossue, notre image.
On
joue avec ces effets-là.
Aussi. Non, c'est vraiment trop bien dosé.
Oui. Fait que c'est un autre très bon point de Midsommar. Moi, j'ai vraiment adoré, comme je te dis, parce que The Wicker Man, j'étais pas capable. Je suis pas capable de ce film-là. Et je trouve qu'on vient chercher une meilleure façon de me montrer un culte et la finalité d'un culte avec celui-là. Fait que moi, ça allait me chercher totalement. Et aussi, mention spéciale au costume de l'actrice principale.
Ouais.
Elle est pas en jeans sexy, elle est pas en talons hauts, est-ce qu'une fille en voyage est?
Puis surtout, après ce qu'elle a vécu, c'est bien de pas avoir trop hyper-sexualisé le personnage.
Non, c'est ça, ça fait du bien.
Donc, verdict sur 10?
Ah, un bon 8.5, 9.
Oh, OK, c'est bon. Moi, comme je disais, encore un très beau film, très bien fait. Le potentiel de devenir un film culte, sûrement dans quelques années. Peut-être encore trop académique à mon goût. J'ai hâte de voir, ceci dit, ça sera quoi les prochains films de Ari Aster. Très intéressé par son travail. Je lui donne un 7 ou un 8, quelque chose comme ça, là, entre les deux. Là, on va rester là, on verra des fois avec le temps aussi, les avis changent. Alors voilà, c'était tout ce qu'on avait pour vous pour notre première partie de Cinébrunch. On se revoit de l'autre côté de la petite pub publicitaire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. We'll be right back. voilà, vous voilà de retour à votre ciné-brunch. François Berthiaume au micro, comme à l'habitude, pour cette programmation estivale, accompagné de Vicky Langlois.
Hello!
Rebonjour!
Hello!
Alors, Vicky, on a instauré la semaine dernière un petit segment amusant courant de l'été. On livre chacun nos top 3 personnels sur un petit sujet. Lequel se trouva être cette semaine nos films d'été alternatifs.
Exactement. Moi, j'ai fait plein de listes cette semaine. Après ça, ce matin, je suis revenue avec un petit top 10, puis après ça, j'ai réussi à me limiter à top 3.
OK.
J'ai mes 3.
Dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce qui qualifie un film de film d'été alternatif?
Ben, film d'été alternatif, c'est que le film d'été, j'en ai déjà parlé ici, dans le temps quand Jim était là, quand c'était le Jim. Je vous ai déjà parlé, chers aux auditeurs, de ce qu'était un film d'été. Le film d'été est deux styles, soit c'est un film qui se passe en été, soit c'est un film sur la transition entre l'âge ado et adulte ou enfant à ado.
Vraiment, au niveau des thématiques,
ouais,
c'est ça qu'on
c'est l'un beaucoup. Ou l'autre, là, tu sais. Okay. Puis c'est un film de transition souvent parce que c'est la pause, c'est les vacances. On grandit, tout recommence, tout se termine plutôt pour mieux recommencer. Donc, le film d'été, c'est soit un film qui se passe en été, soit un film sur l'évolution d'une personne.
Mmh. Je pense que d'or et déjà aussi, si on parle d'un côté un peu plus... extérieur, ben, je sais pas comment. On rentrera quand même pas aussi des blockbusters là-dedans. Je pense que c'est des films d'été en tant que
oui,
tel
oui,
qu'on
ça,
peut oublier.
Oui, effectivement.
Donc,
je comprends ce que
vraiment,
tu veux dire.
C'est, on est allé là avec des films qui jouent avec les thématiques d'un film d'été typique.
Exactement. Ben, en fait, il y a ça. Puis moi, je suis allée dans une direction en me disant tu vas avoir des listes de les 10 meilleurs films d'été, c'est souvent les mêmes.
Oui.
Moi, mon numéro 1 veut sûrement se retrouver là-dedans, mais je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, donc je vais en parler.
Est-ce que c'est Grease?
Non.
Bon, OK, parfait, c'est correct,
correct
d'abord.
Mais c'est ça, c'est que souvent, les tops des films d'été, c'est souvent les mêmes. L'été de mes 11 ans, Stand By Me, ce genre de choses que j'ai déjà parlé ici, justement. Mais moi, quand je suis allée dans l'alternative, je me suis dit, je vais recommander des films qui correspondent à ce style-là, mais qu'on n'en parle pas quand il vient le temps de parler de films d'été et qu'on en parle dans d'autres types de listes, mettons.
Ben écoute, sans plus tarder, je te laisse commencer. Numéro 3.
Summer of 84. L'été été de 1984, Summer of 84, numéro 3. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que c'est pas le meilleur dans ma liste des 10-15, mais pas du tout. Mm-hmm. C'est plutôt parce que je voulais représenter un pan du cinéma d'horreur qui se passe en été. Il y en a énormément.
Ouais.
Si tu veux parler de cinéma d'été différent... Tu peux parler de films d'horreur, j'en aurais des millions à te parler.
Presque comme Midsommar.
Comme Midsommar, comme Sleepaway Camp, comme Crystal Lake, comme toutes les Jason qui se passent dans des camps d'été puis qui ont tué des personnes qui s'occupent de jeunes enfants dans des camps d'été. Donc, les films d'horreur d'été, là, j'en aurais des milliers à te parler.
Alors, pourquoi Summer of 84?
Parce que celui-ci m'a énormément surpris par sa fin. Parce que Summer of 84, qui est de la même gang qui ont fait Turbo Kid, a passé un petit peu dans le beurre après Turbo Kid. Turbo Kid a été énormément parlé. Tout le monde avait hâte du prochain projet. Et Summer of 84 a un petit peu déçu. Parce qu'il est moins horreur que ce qu'on voulait durant le film. Durant la diégèse du film, il y a moins de kills, il y a moins de suspense, il y a moins horreur que ce qu'on pensait avoir à cause de Turbo Kid. Ceci dit, la finale, on la voit pas venir, la fin est incroyablement bonne, et juste pour ça, je pense que le film vaut la peine, et qu'il représente tous ces films de Stand By Me, de grandir, de vieillir, mais avec une finale horrifique vraiment intéressante. Ça représente aussi le mouvement Stranger Things. Je pense que Summer of 84 a souffert de cette comparaison avec Stranger Things. La saison 3 est sortie cette semaine, mais la saison 2 venait de sortir quand Summer of 84 est sortie. Puis le monde a fait comme « Ouais, mais Stranger Things, le meilleur. » Puis tout le monde connaît Stranger Things. Fait qu'on aurait dit que le monde était comme « Ah, oh, on est un peu tanné de ce style-là. » Puis on est comblé avec Stranger Things. Fait que Summer of 84, cette espèce de glamour des années 80, d'amour aussi des années 80, un peu déplu aux gens. Donc, si vous êtes tanné ou pas, Summer of 84.
Ben, vous l'aurez entendu, tout le monde. Summer of 84, option alternative. Moi, de mon côté, numéro 3, j'y vais avec peut-être quelque chose d'un peu surprenant, un documentaire. Ça arrive pas souvent. Et celui-ci est disponible en ligne, même sur la plateforme YouTube. Ça s'appelle Détonnant. Film réalisé par le collectif Cinéma Orchestra, un film purement indépendant, presque étudiant, je pense. C'est différentes équipes de tournage de jeunes cinéastes québécois qui, en 2003-2004, ont décidé de suivre différents groupes et très éclectiques qui, chacun, partaient à Daytona le temps de la semaine de relâche du fameux Spring Break. On va beaucoup discuter de leurs attentes, de leurs appréhensions pour cette semaine-là de débauche, hein, comme tout le monde se l'imagine. Et au final, certains vont être satisfaits, d'autres vont être déçus, d'autres vont même se remettre en question. C'est, dans le fond, je trouve, la meilleure version de Spring Breakers de Harmony Korine qui était sortie il y a quelques années. Parce que celui-là te montre, t'illustre très bien la décadence de ce désir constant de débauche. Là où j'avais un problème, où j'étais gêné avec Spring Breakers, c'est que c'est un film qui esthétise beaucoup cette débauche-là, au point de la rendre glamour et intéressante.
Énormément, énormément.
Là, ce qui est intéressant, avec les moyens qu'avait Cinéma Orchestra pour faire le documentaire Daytona, c'est que comme c'est une petite équipe, la mise en scène est très minimaliste, l'image même crade par moment, et ça va venir créer un énorme contraste avec ce que les personnages vont dire. J'ai l'air peut-être de parler d'un film qui est déprimant, mais c'est très drôle, okay. C'est très allumé, les gens sont très intéressants, aussi très attachants quand même par moment, même s'il y a d'autres segments un peu plus tristes. Mais bon, si vous êtes intéressé, il ne coûte absolument rien. Daytona par Cinéma Orchestra sur YouTube. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Alors,
mon deuxième titre, on n'en parlera pas longtemps parce que tout le monde connaît ce film.
Allez, va.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ah, mais c'est intéressant ça, parce que c'est pas forcément un film qui se passe en été.
C'est
hein?
pas forcément, mais c'est un film qui est baigné de lumière constante.
Oui.
Ce film-là ne se passe peut-être pas en été, mais t'as l'impression qu'il y a un soleil chaud qui écrase tout le film.
Ouais.
Ce film-là, il y a trop de lumière. T'écoutes ce film-là et il y a une surabondance d'éclairage en tout temps. Donc, tout le monde connaît Eternal Sunshine of the Spotless Mind, l'histoire de deux amoureux qui sont pris dans la tête de l'un des deux et on ne sait pas pourquoi. Puis plus le film avance, plus on comprend qu'ils doivent s'effacer, ils doivent se quitter. Donc, c'est une histoire d'amour, en même temps une histoire de fin, mais peut-être une histoire de début. Il se passe beaucoup de choses dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. Et oui, pour moi, c'est un film d'été alternatif à cause de cette espèce d'espoir que l'amour est toujours là. Mais bref, j'adore ce film. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis un peu dans le même sens, moi, mon numéro 2 aussi est un film qui est relativement connu, sur lequel je vais passer vite, mais que je trouve quand même qu'on a drôlement tendance à l'oublier comme étant un film d'été. Mais « Do the Right Thing » de Spike Lee, 1989, même drôle, comme justement le film a marqué beaucoup, surtout aussi parce qu'il prend place durant une canicule, durant l'été. Mais c'est rare que j'en entends parler comme étant vraiment un film d'été. Quand pourtant, il illustre tout ce côté-là un peu relâché. Hein, durant l'été, on est moins pressé par le travail, le temps. Les personnages vont vagabonder dans les rues, vont aller dans différents commerces pour s'amuser. Tout ça, il y a une ambiance, je trouve, très estivale. Même jusqu'à vers la fin, justement, où les tensions vont monter entre les différentes communautés. Ça aussi, durant l'été, on peut voir ça souvent, hein, avec la chaleur, justement, ou peut-être les événements un peu plus festifs, les gens deviennent un peu plus à fleur de peau. Bref, je trouve que c'est un film qui va venir chercher différents éléments qu'on va retrouver dans un film d'été. Et je ne sais pas pourquoi, on a tendance à l'oublier, mais pour moi, c'est totalement un film d'été.
Ben oui, bref. tout à fait.
Alors, numéro 1, Vicky.
As-tu déjà entendu parler de « Et tu, maman, t'aimes bien ?»«
Et tu, maman, t'aimes bien ?»«
Et tu, maman, t'aimes bien ?»« Et ta ça, mère c'est... aussi
!» C'est Alfonso Cuarón, ça se peut-tu ?
Oui, c'est bien ça, je l'ai ici. Avec Gael Garcia Bernal, entre autres. Mais oui, Alfonso Cuarón dans Y tu mamá también, un film d'été. Ça se passe été. Bien sûr, on est au Mexique, comme si Mexique était toujours en été. je prends deux secondes. As-tu vu le mime d'une photo? C'est Mexique, en vrai. Et non. Mexique dans les films américains. Puis c'est la même ville, mais on a mis un gros filtre orange par-dessus. Cette idée que le Mexique est toujours baigné d'un soleil et c'est toujours orange. Y tu mamá también, c'est le film d'une transition. C'est le film d'une amitié, le film d'une rupture d'une amitié. C'est le dernier été de deux amis et c'est parfait. Ce film-là est juste parfait. Je l'ai acheté, c'est un des premiers films que j'ai acheté dans ma collection de films et je l'écoute une fois de temps en temps, mais s'il y a le malheur de passer à Radio-Canada, parce que le film est assez chaud, sans vouloir faire de jeu de mots, et il passe parfois à Radio-Canada après 11h le soir, s'il y a le malheur de passer puis que j'arrête dessus, je me coucherai pas avant 1h du matin et je le finis. J'adore ce film, j'adore le décalage avec l'auteur, il y a un narrateur qui est intéressant dans le film, j'adore. Y tu mamá también, ce film-là, 1h46, un film de 2001, ça vaut tellement la peine de le trouver. Et il passe souvent à Radio-Canada, donc ça aussi, ça vaut la peine.
Profitez-en. Pour ma part, numéro 1, sûrement que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler d'une comédie un peu culte du nom de Dazed and Confused, qui avait marqué les années 90. Alors moi, je ne parlerai pas de Dazed and Confused, mais en fait de sa suite spirituelle, Everybody Wants Some, qui est sorti en 2016, réalisé par Richard Linklater. Encore là, dans Days and Confused, on suivait différents groupes de jeunes après la fin du high school, de l'école secondaire, le penchant secondaire pour les États-Unis. Et dans Everybody Wants Some, en fait, on va suivre les 10 jours qui vont précéder le début de l'université pour un des personnages. Et on retrouve vraiment tout ce qu'on a aimé dans Days and Confused, les personnages excentriques, les situations un peu farfelues, tout ça, ça revient avec une ambiance un peu plus années 80, là où on était avant dans les années 70. Il y a quelque chose de très beau dans cette manière-là d'illustrer les derniers jours un peu de liberté avant le début de l'âge adulte.
C'est souvent ça, et le film d'été. T'sais.
Exactement, exactement. Et c'est un film qui l'illustre très bien. Et qui se termine aussi sur une note très intéressante. C'est là que j'avais trouvé ça assez touchant. À la fin du film, le début de l'école, le personnage est assis à son bureau et le professeur va écrire « Les limites sont là où vous les posez ». Et je trouve qu'après un film où on a simplement vécu différentes anecdotes d'été comme ça, sans grande intrigue ou quête principale, c'est une philosophie qui me touche beaucoup, moi, puis que je trouve très intéressante, surtout dans le cadre d'un film d'été. Alternatif. Oui. Alors voilà tout le monde, c'était nos 6 films alternatifs si vous ne savez plus quoi regarder entre deux Transformers ou E.T. Bref,
ben oui, hein?
Maintenant, vous le savez quoi faire. Alors, on va passer rapidement, vu qu'il nous reste peu de temps, à notre petit segment discussion. Vicky, t'as sûrement entendu parler cette semaine de l'annonce de casting de La Petite Sirène.
Comment ne pas en avoir entendu parler?
Eh oui.
Eh boy, c'était un déversement de propos là-dessus sur mon Facebook. C'est incroyable, ça a été du non-stop. Là. Pendant 2, 3, 4 jours, là, c'était sans arrêt.
Est-ce que tu pourrais nous remettre en contexte, s'il te plaît?
En fait, le contexte est bien simple. Disney a annoncé son casting pour La Petite Sirène et, au malheur, la jeune demoiselle choisie pour interpréter Ariel est une personne noire, est une personne racisée de couleur noire et ça crie aux internets qu'on a tué Ariel.
Alors, simplement pour l'information, l'actrice sur laquelle on parle, c'est Halle Bailey, je pense. Premier rôle, chanteuse soul.
Jeune protégée de Beyoncé.
Ah, intéressant. C'est comme ça qu'elle a été je ne savais pas. Beyoncé qui est à l'affiche du Roi Lion. Je ne sais pas s'il y a un lien.
Exactement, probablement.
Part. Ça se pourrait, hein? Donc oui, annonce qui a fait beaucoup de remous justement pas de remous autour du fait que ce n'est pas une actrice, quoique ça reste très intéressant parce qu'on va aller chercher une chanteuse souvent pour ces films-là Disney. Bon, c'est sûrement ça qui a attiré l'œil des producteurs sur cette jeune fille-là. Faut dire aussi que derrière la caméra on a Rob Marshall qui est réalisateur de Chicago, Into the Woods, Mary Poppins Return, donc quelqu'un qui est très dans les comédies musicales et qu'on a Lin-Manuel Miranda qui est très connu sur Broadway pour les différentes comédies musicales, notamment... Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais il a écrit les chansons de Mary Poppins Return et il écrit des nouvelles chansons pour ce film-là. Donc, on veut vraiment axé ça sur le côté musical, j'ai l'impression.
Oui, je pense que oui.
Vraiment beaucoup. Et c'est vraiment ce qui a motivé, je pense, le choix de casting. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se sentent aussi agressifs quand on va venir changer des éléments de leur nostalgie?
Je le sais pas. Mais tu sais, à chaque nouveau Batman, c'est le même problème.
Exact. Oui, parce mon Dieu, début, lui, là, c'est le cas le plus typique. Ouais.
Parce que lui, là, au début, qu'on a pris ce sujet-là, je me suis dit, on va faire une liste de tous les castings qui ont fait que les gens se sont tirés les cheveux puis qu'ils se sont engueulés sur Internet, en Ariel. Et là, je commence ma liste, Ghostbusters, gna gna. Puis là, je me dis, crème, y a-tu un standard que quand c'est des femmes, ça capote, tu sais? On a donc notre mot à dire. Mais après ça, je me rends compte que non, parce que t'as Batman, puis t'as Interview with a Vampire avec Tom Cruise qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, alors que Anne Rice n'était pas d'accord avec le choix de casting. Moi, j'ai l'impression que les gens se sentent beaucoup trop involved, se sentent beaucoup trop investis dans cette histoire-là.
Ouais.
Je veux dire, attendez, un, de voir le film.
Tout à fait.
Et deux, ça ne vous empêche pas de garder votre cassette de Ariel et de l'écouter avec votre petite fille.
Oui, oui, il y a ce sentiment-là de menace de notre objet culturel préféré ou des choses comme ça que je trouve assez particulier.
Et parfois, ça va donner des très beaux résultats. Heath Ledger, comme le Joker, les gens ne le voyaient pas dans ce rôle-là. Les gens capotaient qu'il y ait ce rôle-là.
Ouais.
Et pourtant, encore aujourd'hui, on en parle. Il y a eu un effet culte incroyable sur ce personnage-là. Comme je disais, tous les Batman, là, le dernier Batman annoncé, c'est
Robert Pattinson.
Ouais. Mais avant, le monde a crié contre Ben Affleck. Ils ont crié combien de fois contre celui avec le pingouin, là, Keaton?
Michael Keaton. Ouais.
Donc, les gens ont crié quand c'était lui parce que, voyons, il est trop petit, il est trop mince, il n'y a pas... Les gens sont pas d'accord jamais. Puis, étrangement, une des fois où le Batman a été moins crié, c'était quand c'était George Clooney.
Oui.
Et le résultat a pas plu.
Le pire, en fait. Je pense qu'on peut dire que c'était le pire
Batman.
Parce
que c'est un Batman LGBT. C'est un Batman sexuel, je veux dire.
Ah, OK. Ouais.
Moi, je l'ai trouvé drôle et rigolo, mais c'est que c'est pas un Batman de BD, mais pas du tout. C'est un Batman qui frivole.
Ouais, ben, tu vois, tu parles justement, tu sais, d'un peu l'authenticité, le respect du matériel de base, le comic book, par exemple, pour Batman. Mais ça va donner souvent, je trouve, des arguments... peu valable, surtout justement si on revient sur le cas d'Ariel. Moi, je voyais quelqu'un qui disait que techniquement, c'est pas le fait qu'on ait choisi une Afro-Américaine pour interpréter Ariel qui le dérangeait, mais c'était que ses cheveux ne seraient sûrement pas rouges. Mais encore là, c'est drôle parce que justement, on fait ça comme si la sainte sacro-bible, l'élément de base de La Petite Sirène, c'était le dessin animé de Disney, quand on oublie que là aussi, c'est une adaptation.
Exactement.
Souvent, c'est vraiment, on va considérer que l'objet qui est vecteur de notre nostalgie et de notre affection pour ce matériau-là et la référence de base officielle, quand rarement c'est le cas.
Justement. Et moi, j'en ai vu des gens dire « Ben non, c'est une légende norvégienne, blablabla. » Puis en Norvège, il n'y a pas personne noire, tu sais. Sauf que la petite sirène de Disney a été transposée d'un Caraïbe.
Absolument.
Et on l'a gardée blanche.
Ben oui, oui, oui.
On a transposé cette histoire-là dans un lieu géographique avec des personnes noires et la petite sirène était blanche. Elle est là, l'incohérence. Mm-hmm. Elle n'est pas dans... Aujourd'hui, elle est à l'époque, l'incohérence.
Ouais.
Donc, il va falloir vivre avec ça, qu'on peut changer. Et aussi, il y a un point important dans une adaptation et dans une réécriture et dans un refaire un film, c'est qu'on a autre chose à dire.
Oui, ben c'est ça. C'est l'idée, en fait, c'est qu'on aurait sûrement autre chose à dire.
Le film qui fonctionne pas présentement, c'est Aladdin. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à dire. Un nouveau Aladdin n'était pas nécessaire. Il n'y a rien de nouveau. J'ai rien contre la performance de Will Smith, en fait. Ça me laisse ni chaud ni froid. Mais le film n'apporte rien de nouveau. Absolument rien. Le Roi Lion, ça a apporté quelque chose de nouveau incroyable. La Belle et la Bête, incroyable. Aladdin, rien de nouveau. Donc, si on veut amener quelque chose de nouveau avec La Petite Sirène, il faut innover, il faut aller ailleurs. Sinon, ça ne sert à rien de refaire ce film-là si ce n'est pas amener quelque chose de nouveau.
Mm-hmm. Ouais, je comprends. Mais tu vois, je suis un peu moins certain des précédents remakes qui ont été faits par Disney. Mais c'est sûr que, bon, on sait ce qu'est l'intention de base. Puis Disney essaie de se montrer très progressiste aussi, souvent en voulant inclure justement ou changer ces histoires-là pour les rendre genre plus progressistes, comme La Belle et la Bête, blablabla. Et là, bon, c'est souvent des choix de casting, ça, quand on va changer l'ethnicité d'un personnage, on va souvent essayer de le vendre comme un argument progressiste. Mais c'est là que j'ai un petit souci avec d'autres choix, par contre, qui, eux, je trouve, sont beaucoup trop safe, si vous pardonnez mon français. Ursula.
Oui, vas-y.
Ça aussi, en fait, je trouve ça drôle que le monde s'insurge sur le rôle d'Ariel, parce que
moi, toi,
c'est sur le rôle d'Ursula qui m'insurge un peu. Je m'explique rapidement. On a appris que, pour le moment, ce serait l'actrice Melissa McCarthy qui interpréterait Ursula. Comédienne très populaire aux États-Unis. Elle a joué dans Bridesmaids, Ghostbusters. Elle n'a pas eu beaucoup de grands succès publics, je trouve, dans les dernières années.
Non, au contraire. Elle a fait deux films avec Sandra Bullock qui ont pogné énormément.
Ah, il y avait public, mais pas critique dans ce cas-là.
Ah, peut-être.
Ça doit être ça.
Public, parce qu'en plus, ça reste la Suki des Gilmore Girls. Là. Je veux dire, non.
Ouais, ben là, on va encore plus loin.
Elle a fait une lancée, là, je te dirais, en 2014 à 2016, elle a fait une lancée de 5-6 films succès. Là.
Mais les trois dernières années, je trouve, ont été un peu creux. C'est ça.
Ouais.
Je sais pas si c'est un choix aussi c'est ça safe pour les studios. Là où je trouve ça un peu dommage, c'est que le personnage d'Ursula, pour moi, était une belle opportunité justement de montrer une volonté de progressisme chez Disney. D'un côté, on avait beaucoup de gens qui militaient pour que le rôle soit repris par une actrice afro-américaine, notamment par exemple Queen Latifah qui avait fait une séance personnage très convaincante. Et là où moi, j'étais encore plus excité à l'idée d'entendre le casting d'Ursula, c'est qu'à la base, le personnage du dessin animé est inspiré d'une drag queen très célèbre,
oui.
Divine, de
oui.
son nom. Et ça aurait été une très belle occasion de rendre hommage justement à cette inspiration-là en prenant peut-être une drag queen pour interpréter Ursula. Bref, il y avait plein d'options pour amener quelque chose de nouveau et d'excitant. Et je trouve que le choix de Melissa McCarthy, en fait, est le choix le plus plate qu'on aurait pu trouver. Genre.
Là, tu me parles, puis c'est vrai que Bob the Drag Queen aurait été excellente.
Il y en a, bon, si on veut parler RuPaul Drag Race, il y en aurait tout plein qui seraient
rentrés là-dedans. Exactement, mais c'est vrai que Bob, avec son effet, en tout cas, bref. Mais t'as raison que c'est un choix très safe. Et parfois, c'est ça qui est crié, hein, c'est que les gens sont fâchés des choix safe. Parfois, c'est ça. Les gens se disent, c'est trop facile, c'est trop safe, on prend pas de risques. Puis, je pense qu'avec Ariel, oui, on a pris des risques niveau marketing, mais en même temps, il n'y aura pas de backlash. Les gens vont y aller, le voir.
Dès la première bande-annonce, on va être correct,
je pense. C'est ça, exactement. Il n'y aura pas un énorme coût au niveau du box-office pour ce film-là. Les gens n'iront pas le voir à cause de ça, j'en suis convaincue.
Non, mais c'est souvent ça, justement. On parlait d'Aladdin, c'était la même affaire aussi. Bon, il y avait quand même du monde qui s'insurgeait, par exemple, du casting de Will Smith.
Exactement.
Au final, je veux dire, c'est quand même... nous sommes deux souris qui chialent sur un éléphant. L'éléphant va quand même commencer à passer. Je veux dire, Disney est assez imperméable à ce genre de critiques-là.
Effectivement. Puis, tu sais, un flop Disney capable de l'assumer beaucoup plus que bien d'autres studios.
Oui.
Alors, moi, je pense que c'est pour ça qu'ils sont capables de s'exposer comme ça. Parce qu'ils sont capables de dire, regardez, nous, c'est la voie qu'on a pensée. C'est ça, c'est là qu'on veut aller. Est-ce que c'est avant-gardiste? Je ne crois pas. Disney est marketing et pas avant-gardiste.
Oh, non, c'est
donc,
ça. C'est exact.
Non, c'est pas un choix avant-gardiste. Oui, c'est un choix pour plaire. Oui, c'est un choix pour faire parler. Oui à tout ça. Mais reste que je comprends pas à quel point les gens peuvent être autant attachés à un casting de personnages et prendre ça aussi personnel avant même d'avoir vu le film. Surtout que, au pire, le film va être mauvais, tu le réécoutes pas. Ou, au mieux, le film est excellent, tu l'as dans ta bibliothèque et tu partages avec tes amis autour du feu à quel point le casting était bon.
Ben, tu vois, tu viens rejoindre des questionnements que j'ai sur toute cette idée globale de Disney de refaire ses contes de fées depuis Alice au Pays des Merveilles en 2010. Ça, je pense qu'on a commencé à faire ça. Je me demande, en fait, je pense qu'il y a une curiosité puis une excitation à vouloir voir ces nouvelles versions-là au cinéma. Mais après coup, je me demande à quel point ils sont regardés. Je veux dire, si t'es avec, je sais pas moi, ton neveu, ta jeune nièce, tout ça, tu veux lui montrer La Belle et la Bête. Tu veux lui montrer le dessin animé ou la version live qui est sortie il y a quelques années? Tu sais, j'ai l'impression, en fait, ils ont tellement pas mal vieilli, les dessins animés, que
je trouve
que c'est des films qui font beaucoup parler une fois au cinéma, mais qui sont vite oubliés.
Mais je pense que ça va être tout ça sauf pour Le Roi Lion. Parce que le Roi Lion, ils sont allés garder l'aspect dessin animé, le mettant avec... Il est un peu animé, pareil, le film, tu comprends?
Mais il est totalement animé.
Ben oui, je sais, mais je veux dire, il y a quand même un aspect animé. Et aussi, on a beaucoup d'acteurs noirs, d'acteurs racisés, d'acteurs africains ou africains-américains qui sont dans ce film. Et ça, ça l'aide aussi au casting. Ce film-là va être ancré dans son temps énormément. Fait que je pense, il n'effacera probablement pas le dessin animé, mais je pense que celui que les gens vont le plus acheter, ça va être celui-là.
Peut-être, peut-être. Si on parle le Roi Lion rapidement, je pense qu'il sort dans quelques semaines, justement. Il faut qu'on se voit avoir l'occasion d'en parler. Moi, j'ai très peur. Ça ne m'excite pas du tout, ce film-là. Je trouve, en fait, si tu regardes les images, puis justement, ce que je trouve intéressant avec le dessin animé, je trouve morne comme film. Je trouve très gris.
Ça, c'est vrai. Très beige, très brun. Très beige, très brun.
C'est moins marquant. Les personnages ont l'air moins iconiques. Scar, je trouve... Moi, me vient vraiment moins d'impact. En fait, c'est ça. Je me demande, je questionne la pertinence de vouloir rendre cette histoire-là réaliste en quelque part. Est-ce que c'est nécessaire?
Je ne crois pas, mais je pense que y a un culte. Il y a de l'amour autour de ce film-là, dans le sens où il y a Broadway qui en fait du Roi Lion et les gens ont des t-shirts, ont des objets du Roi Lion de Broadway. Donc, je pense que le Roi Lion, c'est celui qui peut être plus facilement transposé.
Ça va être un succès assuré.
Moi, je pense que oui.
Alors, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avions pour vous pour ce nouvel épisode de Cinébrunch. Ça faisait un plaisir de passer cette douceur en votre compagnie. Mon nom est François Berthiaume.
Je suis Vicky Langlois.
Et nous vous souhaitons une très belle journée. À la prochaine.